Donc, Luc, jour 1 de cette campagne électorale qui en comptera 41, qu'est-ce qui retient ton attention? Et fais-moi un petit peu là, de lis dans les feuilles de thé, qu'est-ce qui va se passer?
Intéressant. Les conservateurs qui sont neck to neck, comme disent les Anglais, avec les libéraux, mais le vote conservateur est concentré dans trois provinces. Là, d'ailleurs, il continue de monter dans ces trois provinces-là, mais en pure perte, puisque c'est déjà gagné.
Il n'y a pas beaucoup de sièges à aller chercher là-bas.
Ben, il y en a, mais Saskatchewan, Manitoba, Alberta, c'est déjà tous des sièges conservateurs. Alors, tu peux même monter si tu veux, ça ne donne pas plus de sièges. Ça se décide où? Ça se décide dans la banlieue de Toronto, banlieue de Montréal, à Vancouver, grande banlieue de Montréal et Toronto et Vancouver, et un peu dans les Maritimes. Si le Bloc remporte plus de sièges au Québec, les conservateurs perdent des sièges dans Chaudière-Appalaches-Beauce. Et ça veut dire que ils vont être très, très présents. Ils ne veulent pas perdre ces sièges-là. Ça va jouer à quelques sièges proches. Le grand cataclysme pour les conservateurs, ça serait que les libéraux soient minoritaires, mais avec un vote prépondérant, la balance du pouvoir aux verts.
Oui, parce qu'on attend les verts assez forts. En fait, fort, je le mets en guillemets, parce que c'est pas un parti qui a scarré bien, bien fort traditionnellement, mais là,
C'est parce qu'à 13%,
a des beaux sondages. Là.
Oui, mais oui, c'est ça. Ils ont gagné l'élection partielle, la dernière élection partielle au printemps en Colombie-Britannique. Ils sont en train d'aller gruger le vote du NPD. S'ils grugent le vote du NPD en Colombie-Britannique puis qu'ils s'imposent, ils peuvent aller chercher plusieurs sièges. Alors, évidemment, les conservateurs veulent que les petits partis grugent des votes aux libéraux, mais ils veulent pas qu'ils en grugent trop, parce que s'ils se font élire, là, c'est « Oh, attention à la catastrophe ». Puis la catastrophe serait vraiment... Là, il y aurait une remise en cause du modèle du Canada. Là. Ça veut dire si les Verts ont la balance du pouvoir avec un gouvernement libéral fort, minoritaire, ils vont pouvoir arrêter plusieurs projets d'exploration pétrolière.
Oui, mais...
Ils vont renverser la balance de la production de l'énergie au Canada. Ça passera pas comme une lettre à la poste.
Non, c'est sûr que dans l'Ouest canadien, on verrait ça comme un cauchemar. Mais est-ce que je me trompe ou Mme May n'a pas eu des propos, disons, qui sont pas très chef des verts envers les pipelines?
Oui, effectivement.
Il me semble qu'elle n'était pas... C'est pas une radicale qui veut...
Moi, je pense que le vote des verts augmente malgré Mme May. Donc...
OK, tu la trouves pas très bonne.
Ben, j'ai des réticences. Peut-être parce que je suis francophone puis que son accent en anglais, avec son ton de son rythme de rapide... fait qu'elle n'est pas si facile que ça à suivre. Mais les jeunes, est-ce que les jeunes vont voter? La question, c'est toujours ça. Est-ce que les jeunes vont aller voter? Si jamais les jeunes vont voter en masse, les jeunes vont aller voter en masse vert. Et ça pourrait vraiment être un point tournant dans les régions où les verts sont plus forts. Donc, beaucoup en Colombie-Britannique.
OK, la paix retrouvée entre Anglo et Franco, je savais pas qu'il y avait une guerre, mais je comprends ce que tu veux dire, à l'annonce aujourd'hui, là, le gouvernement Legault veut conserver les commissions scolaires anglophones et torpiller les commissions scolaires francophones.
Oui. J'en ai parlé ce matin à Paul Arcand, je vais pas redire tout ça, mais ce que je veux dire, c'est parce que hier, j'avais fait une autre chronique réaliste et donc déprimante, puis tu m'as dit, je te cite, « Simonac, Luc, quand est-ce que tu vas nous parler d'une bonne nouvelle? » Puis je t'ai dit « Demain », alors voilà, j'arrive avec une bonne nouvelle. Puis je me suis dit, je vais pas être cheap, je vais pas t'amener une bonne nouvelle du style Madonna vient chanter à Montréal, une affaire ponctuelle. Une nouvelle profondément rassurante. Tu sais, comme quoi ça va bien, comme quoi on va dans la bonne direction. Et cette nouvelle-là, c'est le respect et la bonne entente entre les francophones et les anglophones, basée sur la réussite de la société québécoise à imposer sa culture et sa langue, puis à réussir à intégrer les autres cultures, dont la culture anglophone. Parce que quand j'ai fait les recherches sur les chiffres qui supportent la décision de conserver ou pas les commissions scolaires, j'ai réalisé la chose suivante. Les commissions scolaires anglophones à travers le Québec sont en diminution de clientèle.
Oui.
Il y a deux commissions scolaires où il y a une petite augmentation de 300 personnes, mais en gros, ça diminue. Par exemple, dans les townships, dans les cantons de l'Est, en Gaspésie, c'est faible. Il y a des fois des écoles avec 30 personnes dedans. Mais ça, c'est pas lié à une baisse parallèle de la communauté anglophone. La communauté anglophone, bizarrement, a recommencé à augmenter un peu, très peu. Donc, elle a déjà été à 8%. En 2011, elle était à 9%. Elle est à 9,6% en 2016. Donc, les Anglais, il y a des Anglais qui reviennent. Des Anglais de langue maternelle qui reviennent au Québec, qui reviennent à Montréal.
Ils sont admissibles à l'école anglaise.
Ils sont admissibles à l'école anglaise, mais ça ne fait pas augmenter les chiffres. Et ça, pourquoi? Parce que 27% des parents anglophones choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école francophone.
27%?
Oui. Okay. Et ça, c'est... La raison, c'est parfois parce que l'école est plus proche. Il va y avoir toutes sortes de raisons. Parfois parce que c'est des francophiles intégrés puis qui veulent que leurs enfants aient l'école française. Parfois, c'est parce qu'ils veulent que leurs enfants soient intégrés à la culture québécoise. Ça, c'est la première bonne nouvelle, mais il y en a d'autres. Il y a le fait que quand on demande aux Québécois, est-ce que vous seriez d'accord à Ah, oh, attends, il y en a une meilleure que ça. Il y en a une meilleure que ça. C'est que dans la loi, tu es obligé. Tu peux envoyer ton enfant à l'école française, anglaise, si les deux parents sont anglophones. Oui. Or, il y a beaucoup de mariages mixtes. Des mariages francophones, anglophones. Des parents dont un parent est anglophone, l'autre parent est francophone, puis là, tu n'as plus le droit d'envoyer ton enfant à l'école anglaise. Fait que ça, c'est une preuve d'intégration des communautés l'une dans l'autre à travers le mariage. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Mm. L'autre élément, c'est que dans les écoles anglaises, la raison pour laquelle ils ont réussi quand même à garder un peu de leur clientèle, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup d'immersion française. Les parents anglophones envoient leurs enfants dans les écoles anglophones à condition qu'il y ait de l'immersion francophone. Écoute, tu peux pas avoir de plus belle preuve d'ouverture d'une communauté à une autre que les trois éléments que je viens de te nommer là. C'est de l'ouverture là, intègre et complète. Du côté des francophones, 53% sont d'accord à donner un peu plus d'oxygène aux communautés anglophones à leur commission scolaire en disant, ben, vous pourriez par exemple recevoir une des recettes proposées, vous pourriez recevoir plus d'étudiants équivalent au nombre que vous représentez dans la société, c'est-à-dire 9% des immigrants par exemple. Au lieu d'aller systématiquement dans les écoles francophones, pourrait aller dans les écoles anglophones à condition que ce soit en immersion française. Tu sais, il y a des solutions qui permettraient de conserver le pouvoir et la puissance de certaines commissions anglophones, de ne pas les écraser au plancher, mais à des conditions de francisation. Alors ça, là, Patrick, là, ça là, c'est la victoire nouvelle, qu'on recherchait depuis 1976. C'est la bonne entente et l'intégration basée sur une culture francophone forte. Puis devine quoi? Là où ça devient la nouvelle du siècle, c'est que ça se produit au moment où les Québécois deviennent les champions de l'économie au Canada. C'est que tout le temps, depuis 1976, on a parlé de la francisation, on a tout le temps parlé de ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? On va être plus français, mais on va être plus pauvre. Les sièges sociaux vont s'en aller. Les Anglais vont s'en aller. Les gens qui ont de l'argent vont s'en aller. Et là, on est dans une situation où le Québec est à la tête de la croissance du PNB, à la tête de la croissance du revenu disponible, est en croissance formidable, et à la tête de la croissance de l'emploi.
Puis bientôt, on n'aura plus besoin de péréquation si ça continue.
Bien, c'est ce qui va se passer, c'est clair. Dans les prochaines, avec la péréquation, puis on revient à l'élection fédérale, si jamais il y a des contraintes à l'exploitation des gaz bitumineux, en plus le Québec qui monte, ouais, il va y avoir une diminution de la péréquation.
OK. Je veux que tu prennes deux minutes. Je veux savoir ce que tu penses. À quoi tu penses quand je te dis 11 septembre 2001?
Ouais, OK. J'ai trouvé la réponse, mais
tu l'as bouffé?
Moi, j'en revenais juste pas, là. Tu veux savoir où j'étais? Tu as demandé cette question-là tantôt.
Non. Okay. Écoute, quand je te dis 11 septembre 2001, et on sait que c'est une date super importante en Occident, un peu partout dans le monde, qu'est-ce que ça signifie pour toi 18 ans plus tard?
Ah, malheureusement, toi, ça, c'est une grande défaite. C'est ça, on vient de parler d'une belle victoire sociale.
Défaite pour qui? Pourquoi?
Pour le monde occidental, pour les relations avec le monde arabe, pour les États-Unis avec l'arrivée de Trump, avant eux, Dick Cheney puis Bush. Donc, une forme de mensonge puis de pessimisme exagéré qui s'est installé sur le monde entier, causé par une gang de malades. Puis après ça, la radicalisation des chiites et des sunnites, les guerres sans fin, le Yémen, l'Afrique centrale, le Moyen-Orient, l'Iran, ça n'en finit plus les conséquences, ça n'en finit plus. Puis j'ai peur qu'on n'en sorte jamais. Je m'inquiète terriblement puis là, tu sais, regarde, tout le monde dit l'ISIS c'est fini, les experts...
L'État islamique, ouais.
Non, c'est pas fini, les attentats, c'est pas fini. C'est un monde qui a changé.
Quand tu dis c'est pas fini, tantôt à 18 ans, je vais en parler avec Fabrice de Pierrebeau. Hein, les gens le connaissent. On l'entend souvent ici au réseau Cogeco, au 98.5 FM. Il est allé en Afghanistan. Il connaît les mouvements djihadistes. C'est ce qu'il va nous dire tantôt, Fabrice, c'est que les mouvements djihadistes sont plus forts que jamais. Merci, Luc. Il est 17h18.